Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine. Au micro Fréjus Quenhom, je suis avec Marie-Ange Piron. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
Avec vous, ce sera la Fropresse, le rendez-vous avec la presse allemande. On imagine, Marie-Ange, que la première comparution de l'Ivoirien Charles Blégoudé devant la Cour pénale internationale n'échappe pas à la presse allemande.
Alors effectivement, il est question de M. Blégoudé dans la presse allemande, mais on parle aussi et surtout d'Ebola en Guinée. On parle également du Burundi et des Grands Lacs.
Merci beaucoup et en attendant de vous retrouver, nous irons d'abord au Cameroun pour parler du docteur Georges Bouélé. Il a créé un hôpital mobile pour voler au secours de patients sans moyens. Georges Bouélé est un jeune médecin camerounais qui sillonne chaque week-end villes et villages pour apporter des soins divers aux populations démunies sous la bannière d'une association qu'il a lui-même créée. Des opérations chirurgicales dans des conditions parfois difficiles, des médicaments, des lunettes et des prescriptions aux malades sont alors gratuits. C'était le cas le week-end dernier dans le village de Yegassi, près de Yaoundé, où plus d'un millier de consultations médicales et 27 opérations chirurgicales ont été menées. Le reportage de notre envoyé spécial, Henri Fotso.
Samedi 22 mars 2014, aux premières lueurs de la journée, les patients de tous les âges, des deux sexes, arrivent par petits groupes, à pied, à moto ou en voiture. Parmi ces gens, une septuagénaire transportée à bras le corps par son petit-fils, derrière une moto, pour ne pas louper l'occasion inédite et inespérée dans le village de Yegassi, situé de Yaoundé, capitale du Cameroun, à 45 minutes de voiture sur une route non bitumée. Autre image, celle du vieux Nga Ada, s'appuyant de ses deux mains sur deux cannes, qui aura mis deux jours pour parcourir les 2 kilomètres qui le séparent du site de l'événement.
Je suis venu me faire traiter. J'ai mal à la colonne vertébrale. Je ne suis pas en bonne santé. Mes pieds me font trop mal.
Les locaux du petit centre de santé de ce village de 5000 âmes, et qui n'a pour seul personnel médical qu'un infirmier, sont insuffisants pour accueillir les consultations, alors déportés à une école primaire située à 500 mètres de là. Pour autant, les salles de classe ne suffiront pas. Et tandis que plus d'un demi-millier de patients sont regroupés sous une tente dans la cour de l'école, d'autres sont installés au pied d'un arbre ombrageux, de même que les premiers constituent une file indienne devant les salles. Puisant dans ses dernières énergies, un vieil homme tombé récemment d'un palmier où il était monté cueillir du vin présente lui-même sa situation comme d'autres patients.
Je suis malade gravement, je ne vois rien. Je tremble même à la main parce que j'avais tombé dans le palmier.
L'enfant, le ventre tourne, l'autre aussi, les yeux. Tu vois comment c'est rouge comme ça. Moi-même, les yeux, je ne vois pas bien comme je suis déjà adulte.
La carte sanitaire du village de Yegassi affiche des maux aussi variés que le paludisme, la tuberculose, la typhoïde, le diabète ou encore la dysenterie amibienne. Et ce n'est pas tout, selon Dr Georges Bouélé, médecin chirurgien.
Parce que c'est ces gens de la périphérie qui nourrissent la grande ville. Ils travaillent beaucoup dans les champs, du coup ils ont beaucoup de douleurs au niveau de leurs articulations. Et ça fait donc qu'ils ont mal, ils ont des pathologies rhumatismales et ils prennent malheureusement parfois des médicaments par automédication, ce qui leur déclenche des douleurs d'estomac. Ensuite, comme ils sollicitent beaucoup leurs muscles abdominaux, ils se retrouvent avec des pathologies comme la hernie.
Il est 18h, 27 cas sont élus aux opérations chirurgicales.
Bien sûr, la hernie va gagner la palme d'or parce qu'il y a plus de patients qui ont les hernies. Il y a aussi des enfants qui ont des maladies liées à l'évolution de leurs testicules. Il y a des patients qui ont des masses au niveau du corps qui sont liées certainement à des avitaminoses qu'on appelle des lipomes. Donc c'est ce genre de maladie que nous allons opérer.
Retour dans le centre de santé vers 20h. L'équipe médicale doit installer elle-même un groupe électrogène car l'hôpital n'est pas alimenté en électricité courante. Toute la nuit et durant toute la matinée du dimanche 23 mars, Dr Georges Bouélé et son équipe effectuent les opérations, les unes plus profondes que les autres.
Et dans une ville comme Yaoundé ou Douala, une de ces interventions coûterait 100 000. Donc voilà, vous pouvez imaginer les coûts. C'est bref une activité qui a mobilisé comme ça une dizaine de millions.
Ce marathon médical de 24 heures chrono, qui n'aura donc rien coûté d'autre qu'un peu de patience aux populations de Yegasi, cela l'a été grâce à l'association caritative Ascovime du docteur Georges Bouélé, qui a fait appel à une star camerounaise de la chanson, Prince Ndedi Eyango.
Tous ces gens ici au village, ils trouvent le sourire parce que sûrement certains n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital ou encore ils n'ont pas l'hôpital à côté.
Ce dimanche, la cour du centre de santé de Yegasi ne désemplit pas de nouveaux candidats aux consultations. Mais il est tard. Docteur Georges Bouélé et son équipe doivent pouvoir retourner à Yaoundé. À son corps défendant, le chirurgien laisse derrière lui des populations minées par la pauvreté, la négligence et l'ignorance. Henri Fotso, de retour de Yegasi pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez toujours Afrique 7 jours sur Radio Deutsche Welle. La seconde partie maintenant, une épidémie de fièvre hémorragique en Guinée, des pays voisins touchés. C'est maintenant donc la revue des thèmes africains dans la presse allemande. Et cette fièvre Ebola, Marie-Ange, est donc un sujet qui retient l'attention de la presse allemande.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung relate par exemple le récent voyage du ministre guinéen de la Santé dans la région frontalière du Libéria. Le principal message du ministre aux populations, note le journal, s'est résumé à ceci : ne mangez plus de chauve-souris. On suppose, poursuit la FATS, que le virus Ebola est transmis par la consommation de viande de singes qui se sont auparavant infectés avec des fruits porteurs d'excréments de chauve-souris. En Afrique de l'Ouest, les chauves-souris passent pour une délicatesse. C'est une viande riche en protéines et bon marché. Les forêts grouillent de chauves-souris et il est facile de les attraper. Entre-temps, note encore le journal, il est à peu près certain que l'épidémie a éclaté suite à un enterrement, probablement l'enterrement de la première victime d'Ebola. Dans les rituels funéraires africains, le contact physique avec la dépouille du défunt est normal. Or, le virus Ebola se transmet entre humains par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés.
La plupart des victimes jusqu'à présent ont été recensées en Guinée. Des cas ont été signalés aussi en Sierra Leone et au Libéria. La Côte d'Ivoire a appelé la population à ne pas manger de petits rongeurs. Mais il y a un autre événement, Marie-Ange, qui capte actuellement l'attention des Ivoiriens. Charles Blégoudé, l'ancien chef des Jeunes Patriotes, a donc comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale et il est inculpé de crimes contre l'humanité.
Un chef de milice sous les verrous, titre dit Tageszeitung. Il y a 10 ans, rappelle le journal, rien ne se faisait en Côte d'Ivoire sans Charles Blégoudé. L'ancien leader étudiant était l'un des partisans les plus bruyants et les plus radicaux du président Laurent Gbagbo. Comme fondateur et leader de la milice des Jeunes Patriotes, il encourageait les propos incendiaires contre la France. Ces miliciens formaient une réserve paramilitaire prête à faire la chasse aux présumés sympathisants des rebelles de l'époque dans le nord du pays. Son extradition vers la CPI, estime le journal, a été juridiquement correcte. Il n'est pas certain qu'elle ait été politiquement judicieuse. La Côte d'Ivoire a besoin d'un dialogue entre le gouvernement Ouattara et les partisans de Gbagbo si l'on veut éviter que les prochaines élections en 2015 débouchent sur une nouvelle guerre.
Le risque d'une nouvelle guerre civile est aussi évoqué dans la presse à propos du Burundi. Un quotidien suisse de langue allemande dénonce la dérive autoritaire du président Nkurunziza.
Ce quotidien fréjus, c'est la Neue Zürcher Zeitung, un journal de Zurich donc, qui relève que la protection de la minorité Tutsi au Burundi est en train de vaciller alors que des opposants sont condamnés dans des simulacres de procès. C'est un compromis historique qui est en péril, souligne le journal. L'accord de paix d'Arusha et la constitution qui en découle sont considérés, au moins sur le papier, comme des modèles pour la solution de conflits longs et sanglants dans la région des Grands Lacs. L'accord a été conclu il y a 14 ans grâce à la médiation de Nelson Mandela et avec l'aide d'un expert suisse en droit constitutionnel, Julian Hottinger. Il assure indirectement au groupe Tutsi 40% des sièges à l'Assemblée nationale et autant au Sénat. Les Tutsis, note le journal, représentent environ 14% de la population contre 85% pour les Hutus. Et l'accord d'Arusha devait mettre un terme au cycle de massacres ethniques qui, en 1972, 1988 et 1993, ont fait au moins 300 000 morts. À cet égard, c'est une réussite. En revanche, poursuit le journal, l'accord a été nettement moins efficace pour la construction d'un État qui fonctionne. La lutte contre la pauvreté ne progresse pas, la corruption prolifère, la justice est arbitraire.
Nous restons dans la région pour parler maintenant de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prolonger une nouvelle fois le mandat de la MONUSCO, la mission des Nations Unies. Mais comme le note un journal, elle doit à la fois combattre, déménager et faire des économies, Marie-Ange.
Combattre en priorité les FDLR, les milices Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda, c'est ce que relève die Tageszeitung. Les chefs d'État des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en ont décidé ainsi à leur sommet de Luanda en Angola mardi dernier. La conférence a recommandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'entreprendre d'urgence des opérations militaires contre ceux qui ne veulent pas être désarmés. Cela concerne entre 1000 et 2000 miliciens. Cela dit, poursuit le journal, beaucoup de choses sont en train de changer pour la MONUSCO. À la demande du président Kabila, une grande partie des collaborateurs de l'ONU sont en train de déménager de Kinshasa à Goma, dans l'est du pays. Cela a des avantages car c'est dans l'est que sont stationnés la plupart des casques bleus, mais en termes de logistique, c'est un déménagement coûteux. Or, dans le même temps, l'ONU doit faire des économies au Congo pour pouvoir renforcer la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Sans compter que Ban Ki-moon plaide pour une importante mission en République centrafricaine. Et à propos de la Centrafrique, justement, le Tagesspiegel de Berlin écrit que le pays sombre dans le chaos. Ni la force africaine, ni l'opération française Sangaris ne réussissent à mettre fin au massacre, souligne le journal.
Et c'est déjà la fin de ce magazine Afrique 7 jours. Vous étiez en compagnie de Marie-Ange Pierron et Fréjus Kenhomme. Merci de nous avoir suivis. We'll be right back.